Ah, quelle horreur, il y a un pigeon mort dans la rue. Ah, je flippe. Ah, putain, si ça se trouve, il a des tas de maladies super contagieuses. Tiens, c'est bizarre comment on nous parle plus de la grippe machin, là, depuis que les étudiants et les salariés, les chômeurs et les gens qui ont une âme ont décidé de dire fuck à Villepin, là. Ah bon, bon, il n'y a pas de rapport, hein. Merci la presse. Salut.
Allô, je suis étudiant à Bordeaux 4, la fac de droit et d'économie de Bordeaux. Ça fait 20 ans qu'il ne se passe rien ici, et enfin on a voté le blocage d'un amphi, le report des cours de la journée de jeudi. Et voilà, ça fait 20 ans que ça n'est pas arrivé à Bordeaux, que la fac de droit et d'éco se mobilise, et enfin on est là. Voilà, c'était Anas pour Là-bas si j'y suis, de Bordeaux.
Salut les amis, des nouvelles de Montpellier encore et toujours Montpellier avec ses deux facs bloqués. Aujourd'hui nous sommes une centaine à occuper les locaux du MEDEF et ça ne fait que continuer. Donc voilà, on espère que ça continuera comme ça. C'était lui, merci.
En soutien à tous les mouvements sociaux, étudiants et lycéens qui s'expriment aussi bien dans le sud-ouest que dans toute la France, le lycée Gaston Phébus d'Orthès, enfin ses élèves, ont décidé de se mobiliser aussi bien contre le CPE. Depuis mercredi matin, les bâtiments du lycée sont donc bloqués. Pourquoi ? Parce que nous voulons être entendus, écoutés et surtout pris en compte. Cela nécessite une action forte et visible. Oui, le blocus est une action dure, mais nécessaire, car dans cette lutte, c'est l'avenir de la jeunesse qui se joue, son avenir social, son avenir professionnel. Et par ce blocage, nous voulons montrer que la jeunesse s'en préoccupe et se mobilise, et ce tant qu'il faudra. Le combat qui s'est engagé est un bras de fer entre les étudiants et le gouvernement. Celui qui cédera sa place sera le perdant. Mais cela n'implique pas pour autant la violence. Notre blocage est pacifique, et les volontaires qui occupent ce bâtiment ne sont pas des casseurs, mais seulement des jeunes qui usent avec leurs moyens de leur droit à s'exprimer. La solidarité, voilà la seule chose susceptible de faire revenir Monsieur de Villepin sur sa décision. C'est en agissant ensemble qu'étudiants, lycéens et salariés pourront contrer l'institutionnalisation de la précarité que représente le CPE. Alors tous, agissez, rejoignez le mouvement et faites bouger vos lycées. Toute aide dans ce combat sera une voix de plus qui s'élève contre le CPE et c'est comme ça que nous pourrons être entendus. Alors nous, lycéens d'Orthès, nous appelons à la mobilisation de tous les lycées, que ce soit dans le sud-ouest, dans notre région ou dans toute la France, et il ne faut pas céder, alors mobilisez-vous. Voilà.
C'est la révolution officielle de Coulèges. Ouais, tous avec Mermet. Je t'aime.
Oui, salut Daniel. Voilà, je suis étudiant à Sciences Po Rennes, donc je t'appelle pour dire que nous bloquons donc l'établissement depuis jeudi. Nous avons donc reconduit la grève lundi soir à 64,4% et nous espérons en faire de même ce soir. Donc en fait, nous détenons en étage les 450 élèves de notre établissement. Nous leur imposons les décisions de l'AG et nous les soumettons à la démocratie. Et l'on fera ainsi tant que le citoyen Galouzeau n'aura pas satisfait nos exigences qui sont le retrait du CPE et l'abrogation du CNE. Allez, salut.
Salut, je fais partie du comité d'organisation du blocage du lycée de Clermont-Lérault. On est 800 élèves dans notre lycée et plus de 600 ont voté pour le blocus. Et parmi ceux qui ont voté contre, il y en a un grand nombre qui n'en sont pas moins contre le CPE et se démènent à nos côtés. Unis, on peut faire beaucoup. Demain, nous serons plus d'une centaine à partir pour la manifestation de Montpellier, pendant que d'autres continueront le blocus. Nous ferons entendre notre voix aux côtés des élèves et des étudiants des autres lycées et des facs. Voilà, je pense que c'est important de dire que les jeunes se bougent et protestent aussi ici, dans l'Hérault, et que même si on n'est pas à Paris, même si on ne parle pas aux informations nationales de nous, eh bien, on est là pour se faire entendre. Et pour l'instant, ça marche, puisque des journalistes de diverses radios, journaux et chaînes de télé sont venus nous voir et ont parlé de nous au niveau régional. Faites entendre votre voix sur tout le territoire et organisons-nous en réseau. Pour ceux qui sont proches de Montpellier, je vous donne rendez-vous à la manifestation de jeudi, à 14h, entre 14h et 14h30 au Pérou. Et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent.
Je suis en train d'écouter la revue de presse et j'en ai marre. Mais j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes questions, les sempiternelles mêmes questions.
Est-ce qu'un employeur va licencier après avoir formé un jeune pendant 2 ans et blablabla bla bla, et blablabla bla bla. Comme si les réponses n'existaient pas. Je comprends pas, mais qu'on aille voir, qu'on leur dise aux gens ce qui se passe dans les pays où il y a de la flexibilité. Ce sont des emplois à temps partiel, à 20 heures. Les gens cumulent 3 boulots aux États-Unis pour pouvoir vivre, évidemment, avec les en payant pas les charges. Évidemment que les entreprises, elles licencient au bout de 2 ans, qu'ils aient formé ou pas formé, ils en ont rien à foutre. Il paie moins de charges, c'est tout. Bon, ben voilà, c'était mon coup de colère du matin des États-Unis parce que chez vous, c'est le soir. Et c'est Evelyne, une fidèle auditrice. Bye bye. Tenez bon.
Voilà, alors, 20 ans après, Monsieur Villepin aura-t-il son Malek ou ses Kin? C'est possible. C'est possible aujourd'hui, c'est possible d'ici ce soir, c'est possible pour ce soir. Il aura tout fait pour cela, en tout cas, lui et sa bande de casseurs de jeunes et de briseurs d'avenir. Les minutes sont effectivement très très chaudes actuellement, pas seulement à Paris. Nous, on continue notre... On aura peut-être des nouvelles d'ailleurs de notre correspondant sur le front d'ici à la fin de cette émission, notre Francesco, qui suit les manifs, lui, pour la radio italienne, pour sa radio en Italie, qui nous donnera peut-être quelques échos. Nous, on continue la balade au Bangladesh. Aujourd'hui, on va se... Alors là, vraiment, c'est une balade, vous allez voir, dans Dhaka, une des villes les plus folles qui nous a été donné de découvrir avec Guy. Voilà, ça va être une heure de balade pour aujourd'hui dans cette ville un peu cinglée, il faut bien le dire. Auparavant, des messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, suite à l'émission d'hier et d'avant-hier sur l'histoire de cet atelier de confection qui a brûlé, cet incendie dans un atelier de confection à Chittagong et au reportage que nous avons fait dans cet hôpital avec ces ouvrières blessées ou brûlées ou et plus images qui vous ont beaucoup frappé et qui vous ont fait réagir.
Je voulais juste te dire, c'est l'énumération que tu nous as faite, plusieurs choses en fait. La première, c'est l'énumération que tu nous as faite, un prénom, un âge, un pourcentage de brûlures. C'est quelque chose d'absolument tragique ce que tu nous as dit là. J'ai l'impression que c'était vraiment toute la misère, tout le malheur de l'humanité depuis toujours que tu nous disais. J'avais l'impression que tu me lisais des morts dans une guerre. Voilà, dire en tout cas à tous ceux qui battent, à tous ceux qui se battent, qui manifestent que malgré tout, on peut avoir ici en France des gens qui travaillent, qui bossent dur comme moi et qui pourtant sont heureux dans leur boulot, qui aiment leur travail, qui n'ont pas la boule dans la gorge quand ils partent au boulot, mais que effectivement, on se sent tout complètement de tout cœur avec eux. Allez, salut.
J'appelle parce que je roule et je viens d'écouter l'émission sur les femmes au Bangladesh. Et puis ce week-end, j'étais à Lyon, je suis allée à Zara, je me fais un t-shirt. Et subitement, je me sens pas très bien dans ce t-shirt et je me dis peut-être que c'est une des femmes qui a été brûlée à 25%, qui est maintenant dévisagée, qui a cousu ce t-shirt. Et franchement, je ne suis pas bien, et tu vois, c'est comme si j'ai envie de l'enlever en même temps. Que la dernière me disait que c'était que des solutions politiques et il ne fallait pas boycotter. Bon, en même temps, je ne peux pas m'empêcher qu'effectivement, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que voilà, quoi, peut-être que c'est une petite femme qui a cousu mon t-shirt acheté chez Zara, d'ailleurs relativement cher. Par rapport à ce que c'est. Allez, salut Daniel et merci pour ton émission. C'est Anne de Gap.
Salut Daniel, salut à tous. Pascal Dumont, non, je réagis à chaud à ce que tu viens de dire. C'est l'incendie, ce terrible incendie là qu'on vit en pratiquement en direct. Enfin, du moins, on ressent l'émotion, la révolte. C'est pas l'incendie de la consommation, c'est pas l'incendie de la surconsommation, c'est l'incendie d'une poignée de criminels qui ont décidé une fois pour toutes d'ouvrir toutes les frontières et d'exploiter les plus pauvres des plus pauvres jusqu'à ce qu'ils en crèvent, comme ils l'ont toujours fait depuis la révolution industrielle notamment. Et ça, ils sont limite. Donc, nous, consommateurs, certes, aujourd'hui, on achète parfois des vêtements, et j'en porte moi-même, des vêtements qui proviennent de ces usines, bien entendu. Mais a-t-on le choix, déjà, aujourd'hui, d'en acheter ou pas? Et reste-t-il des textiles de d'autres usines? Nous portons une part de responsabilité, certes. En tant que citoyens, nous avons une petite part de responsabilité, mais la part monstrueuse, elle est de celle de ces gens qui, aujourd'hui encore, font des frics fous, ce que disait l'auditeur en début d'émission, il y a 800% de marge entre les deux, parce que voilà, c'est... Donc, ça m'a pas tout à fait paru juste ce que tu as dit au tout début. Voilà, je me permettais de te rappeler pour te dire ça. Salut Daniel, ciao.
Dans l'après-midi du 25 mars 1911, un incendie a éclaté à la Triangle Shirt Waist Company, dévastant les 8e, 9e et 10e étages de l'usine, hors d'atteinte des échelles d'incendie. Les pompiers de New York avaient déjà prévenu que les échelles ne pouvaient pas monter au-delà des 7 étages. Pourtant, la moitié des 500 000 travailleurs new-yorkais passaient leur journée 12 heures en moyenne au-dessus du 7e étage. En outre, la législation stipulait que les portes des usines devaient s'ouvrir vers l'extérieur. Dans cette usine, elles ne devaient pas être fermées pendant les heures de travail. Malheureusement, elles étaient en général fermées pour faciliter la surveillance des employés. Ainsi, prises au piège, 146 salariés de la compagnie, des femmes pour la plupart, ont trouvé la mort dans l'incendie en se jetant par les fenêtres. Nous sommes en 1912, à l'époque où se formèrent les grands syndicats américains. C'était l'époque où, face à l'exploitation de l'homme par l'homme, face au pouvoir concerté du pouvoir et de l'argent et des armes, on n'avait que le choix de défier l'ordre établi et d'arracher au prix du sang le droit de vivre dignement. Je vous recommande cette histoire, écrite par Howard Zinn, dans Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, une histoire à méditer.
Et oui, vous êtes plusieurs à nous avoir rappelé ce moment de l'histoire des États-Unis, effectivement, ce 25 mars 1911, où exactement, comme ce que nous avons vu, ce que nous avons rapporté de ce que nous avons vu à Chittagong, des ouvrières d'un atelier de confection, c'était à Manhattan, c'était à New York, sont mortes dans l'incendie d'un atelier de confection dont les portes étaient fermées. Et bien voilà, le 23 février dernier, à Chittagong, une centaine maximum, on n'a pas les chiffres exacts, je vous l'ai dit, mais environ une centaine de femmes sont mortes, brûlées dans un atelier de confection dont les portes étaient fermées. Il y a une auditrice notamment qui souhaiterait que ce 25 mars soit, puisqu'on célèbre toujours aux États-Unis ce 25 mars, eh bien on associe le 23 février de Chittagong. Effectivement, il y a un rapprochement assez étonnant. On va partir pour Dhaka, mais il y a beaucoup de messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dont certains sont évidemment passionnants, intéressants, nous informent, nous font rire des fois heureusement et nous mettent beaucoup beaucoup de puces à l'oreille et pas mal de rage au cœur aussi.
Je suis Michel, je travaille dans le Maine-et-Loire. Je travaille dans un centre d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse qui accueille des jeunes de 16 à 18 ans en très grande difficulté. Des jeunes dont personne ne veut. Depuis janvier, le ministère du Travail a réduit les crédits de formation professionnelle, ce qui a entraîné la suppression d'agréments pour certains départements comme dans le Maine-et-Loire. Cette rupture entraîne la fin de l'indemnisation des jeunes, 630 euros par mois. 130 euros, c'est peu bien sûr, mais c'est déjà quelque chose pour eux. Cela les aide à se vêtir, à circuler et même à manger. Au-delà de l'argent, ils avaient un statut, une place. Pour certains, c'était leur première expérience dans le monde du travail. Depuis l'annonce des décisions du ministre, ils quittent le site. Et où vont-ils? Bien sûr, dans la rue. Ils rejoignent les mécontents. Mais attention, ceux-là, ils sont peu contrôlables. On les rend fous, on nous rend fous. D'un côté, nous, les professionnels, nous sommes conviés à des grands messes à la préfecture pour présentation du plan Borloo après les émeutes. On nous demande de repérer ces jeunes, de leur proposer du travail, des stages. Et d'un autre côté, on leur coupe les vivres et on les jette. Monsieur Borloo, elle est où la cohésion sociale, la cohérence sociale? Ces jeunes reviennent de loin, ils ont fait des efforts, ils se stabilisent. Alors aidez-nous, aidez-les surtout et rétablissez ces agréments. Merci Daniel.
Salut Daniel, ici les enseignants du collège Molière de Villeneuve-d'Ascq. On voulait te dire que dans notre belle région du Nord, largement touchée par la précarité et le chômage, on précarise aussi les profs. La méthode est simple, on supprime 930 postes en 2005, on supprime encore 700 postes en 2006, on supprime les groupes à effectifs réduits, on bourre les classes à 30, on fait voyager les profs entre plusieurs établissements, on fait remplacer les titulaires par des vacataires et on diminue les heures de cours. Tout cela au nom de l'égalité des chances et avec peut-être l'espoir pour nos élèves de décrocher un mirobolant CPE. On en a assez, on est tous en grève aujourd'hui. Allez, salut.
Bonjour l'équipe de Daniel Mermel et Abassi Suisse, c'est Pierrot de Tousson, la tête des trains. C'est pour annoncer la quatrième rencontre du du repère de Tousson au milieu des betteraves du Gâtinais. Alors si vous aimez les betteraves, les petites betteraves, les grosses betteraves, rendez-vous samedi 25 mars à partir de 20h30. On passera un petit documentaire qui s'appelle « La carotte et le bâton ». Alors ceux qui veulent pique-niquer peuvent arriver un petit peu plus tôt et se retrouver au milieu des betteraves du Gâtinais. Alors c'est à la tête des trains, place de l'église à Tousson en Seine-et-Marne, près de Milly-la-Forêt. Alors rendez-vous samedi 25.
Ouais, bah j'entends Barreau là sur France Inter, on est jeudi 13h20. Bah, il commence à nous laisser, hein, Barreau. L'immobilisme. Mais on s'en fout de ce que pense Bruxelles, mon coco, je vais te dire une bonne chose. Les députés, on connaît même pas leur nom. On sait pas qui ils sont, on sait même pas comment on les a élus. Ils sont peinards, Strasbourg, Bruxelles, c'est un gros bordel, tout ça. Ouais. Bah, moi, je vais te dire, hein, la jeunesse française, elle a bien raison de se bouger, de se remuer le cul pour pas se faire avoir. Hein. Voilà. Donc, bah ouais, écoute, hein, on est quelques-uns à penser comme ça, donc ça va pas être facile, hein. À mon avis, va y avoir de la rébellion dans les mois à venir. Alors, faut t'y faire, mon vieux Barreau. Reviens prendre un peu l'air français, tu verras, ça sent bon la révolution. Allez, salut.
Bonjour Daniel, c'est Franck, un agent EDF-GDF, en action aujourd'hui pour lutter contre la fusion de GDF-Suez. Pourquoi nous sommes contre la fusion GDF et un groupe privé? C'est pour garder le service public de l'énergie qui, depuis 60 ans, distribue l'énergie la moins chère en Europe. Depuis la mise en bourse d'EDF-GDF, les choses changent. Pas pour une baisse des tarifs, comme le souhaitaient les usagers de l'énergie, mais pour une augmentation des prix. Et une augmentation annoncée en 2007 qui accompagnera la libéralisation totale du marché de l'énergie. Une partie de la population voulait la concurrence pour faire baisser les prix. Et bien sûr, pour virer ces feignants d'agents de DFGDF. Virer les agents, ils vont peut-être le faire, mais baisser les prix, sûrement pas. Alors messieurs, vous ne payerez plus pour les agents EDF-GDF et leur comité d'entreprise, très souvent décriés, mais pour les actionnaires qui, eux, ne font que faire travailler leur argent et de manière exponentielle. Pour la petite histoire, cette année, le bénéfice record de GDF a été encore battu, mais aussi des augmentations records.
Je voulais vous signaler une manif des personnels de l'Office national des forêts devant la mairie de Dominique Bussereau, notre cher ministre de l'Agriculture. Le libéralisme débridé veut s'appliquer aux forêts publiques. Toujours plus de bois à vendre et de moins en moins de personnel dans les forêts. Malgré le discours de Chirac, premier écologiste du monde, 20 ans à la gestion durable, la forêt publique connaît une diminution constante de ses moyens. Et on s'oriente vers la vente des forêts de l'État, comme l'indiquait Serge Halimi l'autre jour, pour la Nouvelle-Zélande. En fait, rien n'est bien brillant chez nous et tout progresse. Allez, au revoir, bonne journée.
Et maintenant, l'instant CPE. Martine ! Martine, mon petit, oui, oui. Dites-moi, vous êtes souvent en pantalon, hein ? Vous voulez pas mettre une mini-jupe demain, hein? Comment? Non, une mini-jupe, quoi, hein? Pardon? Non, sans motif, hein? Une petite mini-jupe, quoi, unie, hein? Merci, hein? Vous êtes gentil. Si, j'insiste, hein? Sans motif, la mini-jupe, hein? Sans motif. C'était Bruno, Paris. Allez, ciao, à bientôt, bye bye.
C'est parti.
Alors là, on va vraiment mourir. On va mourir, c'est sûr, cette fois-ci. Jamais vu une ville aussi polluée, aussi délirante, aussi malade de toute ma vie. J'ai jamais vu une chose pareille. On est dans Dakar. On a essayé de survivre dans Dakar. C'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Là, il y a un bus qui me frôle l'épaule, littéralement. On est dans un rickshaw. Nous, on a pris un rickshaw à moteur. C'est impossible pour nous de monter dans un rickshaw à vélo, quoi. S'asseoir là-dedans, c'est avoir l'air d'une sorte de pacha. Pourtant, ils sont très, très beaux, ces rickshaws vélo. Mais on a préféré le tchouk-tchouk. Et c'est vraiment infernal. Et encore là, c'est la partie la plus calme de la ville. C'est les beaux quartiers, c'est un petit peu, ça correspond quoi à la Défense peut-être. mais c'est sans doute la ville la plus embouteillée du monde. Pourtant, la compétition est dure, mais c'est sans doute la ville la plus polluée. Les gens sont vachement gentils, parce qu'il y a un gars là, bon, il perd pas, il voit qu'on est des blancs, il y a très très peu de blancs dans cette ville, enfin très très rare. Mais les gens sont vachement souriants et tout, et ils s'amusent de nous voir parler. Puis il y a notre chauffeur qui est devant là. Voilà, là ça va. Ah, il a coupé le moteur. Le silence.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis avec Guy Ventil, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise. Je sais pas si on va mourir, mais en tous les cas. Avant de mourir, on sera passé place Unis le Vert. Ouais. Ici, à Dakar, au milieu de cette immense place que nous traversons. Ok, au tout haut, on va... Putain. Ah, là, on l'a vu. Oh là là. Il y a un monument à la multinationale Unis le Vert. C'est le... Voilà, il y a... écrit en gros, Unis le Vert. Sur un monument de ciment, de marbre. C'est la place Unis le Vert. Et là, c'est juste à côté, évidemment, je vois des ouvrières avec des paniers qui rentrent du boulot ou qui vont au boulot. Ou bien alors des gosses, des mendiants, comme il y en a ici, qu'on voit au feu rouge. Ah, ça nous chope à la gorge. Hein. C'est terrifiant. Absolument terrifiant. Alors vous avez le choix, pour aborder Dakar, soit vous pouvez lire les lignes qui suivent. Dakar, la capitale du Bangladesh, s'étend sur la rive nord du fleuve Buriranga, au centre du pays. Si vous venez d'Asie du Sud-Est, elle vous fera l'effet d'une ville assoupie. Si vous arrivez de Delhi ou de Katmandou, vous serez frappé par la relative pureté de l'air. Si vous venez de Calcutta, vous trouverez la ville propre et organisée. Et si vous venez du Bangladesh rural, vous vous croirez au paradis. La capitale dispose d'infrastructures qui font défaut dans le reste du pays. Voilà ce qu'on peut dire sur un guide touristique par charité, je ne nommerai pas. Mais vous pouvez aussi lire que le Bangladesh, et Dakar tout particulièrement, est l'un des lieux les plus dangereux du monde. Les Mujahideen sont là... dangereux, ils ont formé ces Mujahideen afghans, les fondamentalistes bangladais qui ont entamé un nouveau cycle de violence qui plonge le pays dans le pire des obscurantismes et le gouvernement de Dimo. Tout ça, c'est vrai, c'était pas le sujet de nos reportages. On se souvient effectivement, le 17 août dernier, je sais pas si vous vous souvenez, 17 août 2005, il y a eu une série d'attentats au Bangladesh, simultanément, dans la même demi-heure, 459 bombes ont pété dans l'espace d'une demi-heure. Et ça a été pour le mouvement islamiste radicaux une façon de montrer leur présence et leur puissance et la façon dont ils maîtrisent l'État, dont ils maîtrisent le pouvoir. Mais c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on va essayer de survivre. Parce que vous entendez des reportages, vous entendez des voix, des personnes, etc. Mais entre les lieux, entre les personnes, entre les événements, eh ben, il y a la circulation. Et sans doute que Dakar est la ville la plus cinglée du monde pour ce qui concerne la pollution, les embouteillages, une ville de 10 millions d'habitants dans laquelle il y a 300 000 rickshaws.
300 000 rickshaws vélo, hein, des gars qui pédalent toute la journée, qui pédalent jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Alors régulièrement, la police, parce que à peine 80 000 de ces rickshaws ont une licence et sont repérés par les autorités, mais tous les autres, évidemment, sont clandestins, entre guillemets, simplement des milliers, des dizaines de milliers de, comme les ouvrières, comme ceux qui travaillent sur les chantiers de démolition des navires, sont des gens qui essayent tout simplement de survivre, d'échapper à la misère et à la famine. C'est très souvent des gens qui viennent des régions nord de ce pays, Delta, le Bangladesh, 150 millions d'habitants, c'est le Delta, c'est le Delta du Bengale. C'est beau, un Delta du Bengale, on dirait un titre de roman de gare. On va voir que c'est pas tout à fait ça, même si la ville a des côtés très sympathiques, et puis surtout les habitants, effectivement, sont très sympathiques, industrieux qu'ils sont, et souriants qu'ils sont, et surpris qu'ils sont. Mais qu'est-ce que des blancs peuvent bien faire dans notre ville? C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, sur France Inter. Incroyable, le bordel dans lequel on se trouve. Mais là, on va mourir. On est coincé comme d'habitude entre deux énormes bahuts déglingués, cabossés, rouillés. Et voilà, ça klaxonne de tous les côtés entre les marchands de fringues. Alors maintenant, il y a un truc nouveau qu'on n'avait pas encore vu. C'est de magnifiques charrettes, de magnifiques carrosses avec des petits chevaux, genre petits mulets, comme ça, emplumés. Et puis, à bord, des gens comme des espèces de nababs, des princes, avec des regards lointains qui sont sur cette... J'ai jamais vu un pays aussi fou de bruit. Et que dit le gars là-bas? Dans le haut-parleur, ils adorent les haut-parleurs, les gens ici. Qu'est-ce qu'il raconte?
Publicité.
Une page de publicité. Des médicaments. Quels médicaments?
Des médicaments pour augmenter la durée de sexe.
Ah bah voilà, Viagra. Ben c'est très bien pour les mariés.
Orgasme.
Oui, orgasme garanti. Oui. Hop, on passe entre les deux. On est trois. Non mais j'ai vraiment le tuyau d'échappement directement dans le nez. Il y a quand même un gars qui passe et qui vend aux passagers du car. Il leur vend
la glace.
Il leur vend la glace. Et devant nous, il y a des rickshaws vélo. Et là, alors, tous les rickshaws sont décorés. C'est très connu à Dakar, au Bangladesh, les rickshaws décorés. Mais chaque rickshaw est un poème. C'est-à-dire qu'on peut... Finalement, on s'amuse beaucoup dans les embouteillages parce qu'on peut regarder là-bas, celui-là, c'est des personnages des films hindous. L'autre, là, il y a des personnages peints, c'est très très bien peint. Il y a un gros œil, un peu comme un œil de Fatma. Il y a un personnage avec une mitraillette. Il y en a d'autres qui ont la gueule en sang là-bas. D'autres qui ont des... avec des fleurs autour. On sent des... on sent des... Et le chauffeur se barre. Ce gars-là passe sa vie dans cette cage, hein, parce que les chauffeurs sont entre trois grilles de fer, trois grillages. Et voilà le carrosse qui nous rejoint avec des femmes voilées. Et l'autre charrette, regarde l'autre, il a le ventre en avant. Les gros ne font rien, sont assis et les autres pédalent. Là, ils sont en train de faire la canne à sucre.
n'y a pas... Chaque millimètre de l'œil est occupé par un étonnement.
Les gars qui courent. C'est une circulation de la fluidité. On est un peu comme des poissons dans un banc de poissons.
Mais pas comme des poissons dans l'eau pour ce qui nous concerne, nous aussi. Tout le monde autour est tout à fait à l'aise et tout à fait bien et heureux. Et c'est vraiment les habitants de Dakar, je ne sais pas comment on les appelle, sont vraiment les Mozart du rickshaw, les Mozart de la circulation. Ils ont un art de circuler dans ce bordel, dans ces embouteillages, de façon tout à fait extraordinaire. Et ce qu'il y a au-dessus de nous, au-dessus de la circulation, c'est des échafaudages en bambou. On utilise beaucoup, beaucoup le bambou au Bangladesh. Le climat permet de faire pousser du bambou en grande quantité et en très, très grande taille, des longueurs de 6, 8, 10 mètres de bambou d'un seul tenant comme ça et qui servent pour les échafaudages. Donc on construit des buildings entiers avec des échafaudages construits en bambou et on utilise aussi les bambous pour monter, grimper le long d'une façade par exemple quand on veut accrocher une affiche ou un panneau publicitaire ou le peindre, parce que très souvent ces panneaux publicitaires sont peints à la main et vous avez au-dessus de vous à 30 ou 40 mètres un gars qui est assis ou sur un pied, sur un simple bambou en train de peindre un truc. J'ai toujours admiré, j'avais vu ça déjà en Inde, je crois que c'est à Delhi ou à Bombay, je ne sais plus, mais là il y a encore plus d'utilité. Donc au-dessus de ce bordel, Fellini aurait connu Dakar, il aurait simplement promené sa caméra dans Dakar et on aurait eu cet étonnement d'enfant qu'on a devant les films de Fellini et que Fellini avait envers la vie, là c'était la vie italienne, mais envers la vie et envers son enfance.
Il y a un type avec un sifflet qui fait la circulation, lui. Il fait la circulation et il nous conseille de ne pas passer par là. Ah, pourquoi ? Pourquoi il nous conseille de ne pas passer par là ? On va bientôt le savoir. C'est parce qu'il y a une manifestation qui vient contre nous. La manifestation vient vers nous. Et alors on va être mal vu par les manifestants, nous qui sommes toujours pour les manifestants. Nous qui sommes toujours dans les manifestations. Voilà, on va être mal vu. On est repoussé. D'accord les gars. Oh, c'est une petite manif. Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Ouf ! On vient de se faire emboutir là, par derrière, par une camionnette. Donc le chauffeur sort tout de suite, très énervé. Et du coup, on bloque complètement la rue.
Le safari démarre. On peut pas s'engueuler longtemps. Il lui en a mis trois coups dans le cul quand même. C'est la première fois qu'on se fait emboutir en 8 jours de... Je crois que c'était un peu volontaire, hein. C'est très maîtrisé. Voilà, on a croisé la manif. De l'autre côté de l'avenue, ils sont absolument bloqués. Bloqués dans les gaz d'échappement. Il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Là, on double des pelotons de rickshaw. Hop, le gars avec son bidon de lait, hop là. Qui passe. Et à gauche, c'est des charrettes. Des charrettes qui... Oh, oh là là. Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer en rentrant.
Jamais. À côté de ça, le périphérique, ouais, c'est un vrai billard. Quoi.
Ouais. Non mais rouler à 240 sur le périph, c'est pas vraiment prendre des risques. Non, au lieu de faire le Paris-Dakar, quoi, tu viens simplement avec ta moto, tu fais une heure dans Dakar et tu survis, c'est tout. Ça, c'est une épreuve, non? Pour des Européens. Traverser Dakar, alors, t'as une épreuve à pied, t'as une épreuve en patin, roulette.
Des fois, tu peux même pas marcher parce que sur le trottoir, il n'y a que des marchands.
Des étals et des marchands.
Et les piétons, c'est au milieu de la route.
Les pauvres chevaux, j'ai pitié pour ces chevaux.
Oh là 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 là.
Ah les gars, avec ces immenses paniers sur la tête, regarde. Hop là. Là, le gars, il va traverser, le gamin traverse avec une montagne d'œufs. Là, eux, ils portent les charrettes. Ça, c'est vraiment les esclaves.
Les coulis, quoi.
Oui, c'est les hommes mulets. Ils tirent d'énormes charrettes avec une cinquantaine de sacs de je ne sais quoi, de riz, de carton. Là, il y en a un qui... Il y a des petites bobines de ficelle sur son dos. Un paquet de bobines de ficelle, là, des pneus. Attention, qu'est-ce qui nous arrive? Ah, hop, encore une manif.
La police fait la circulation.
Attention, une manif. Une manif avec une dame, un monsieur, un beau moustachu.
C'est la partie politique du gouvernement.
Oh, comme ils sont heureux.
Le parti nationaliste bangladéchi. Avec des petits chapeaux blancs sur la tête. Bien sûr, exclusivement des hommes. Et ça fait quoi? Ça fait 200 personnes maximum qui marchent au pas de course.
Et ils font pas pitié, hein. Ils sont plutôt bien nourris. Enfin, à l'échelle du pays, ils sont plutôt...
Et là, il y a un paresseux qui a fait la manif, un cyclopousse.
Il l'a fait en pousse-pousse, mais la volonté y est, et il a l'air martial avec sa petite moustache et son petit machin en carton blanc sur le front avec le texte. Il n'a pas besoin de crier. C'est écrit là, c'est écrit sur le front.
Il n'a pas besoin de marcher, il y a le cyclopousse qui a pédale.
Absolument. Ah voilà, un beau cheval.
Avec des guirlandes de fleurs tout autour.
Vous êtes fous.
Un peu plus joyeux déjà celle-là.
On va bientôt arriver. Les flics sont à la fois... C'est difficile de... À la fois... sévère et débonnaire. Sévère et débonnaire à la fois.
Là, c'est des marchands de tissus de toutes les couleurs.
Ah, une manif.
C'est la quatrième depuis tout à l'heure.
Oui, on va entrer vers le port, non?
Ben, écoute.
On est dans le port, au bord de la rivière.
C'est ce qu'on voulait.
On descend? On laisse?
Ben oui, écoute.
On est arrivé.
Ouais. On est content.
Sain et sauf.
Jusque-là, ça va.
Mais là, je sais comment on est. Enfin, on est sur le port de Dakar, là. C'est complètement délirant. D'abord, l'odeur. Le mot qui vient, c'est cloaque. Ça pue, c'est épouvantable. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des énormes ferries qui doivent dater du temps des Britanniques qui font des traversées, on va savoir vers où. Et puis, il y a cette quantité de bateaux avec 2-3 personnes et des gondoliers. Des gars qui bossent exactement comme des gondoliers avec une barre derrière. Et puis, de temps en temps, des bateaux moyens, des espèces de grosses péniches très rapides, hein,
qui transportent des marchandises. Il y en a une qui transporte d'énormes ballots. Et d'autre côté, on aperçoit la rive avec tous les bateaux, les petits bateaux de cette taille-là. Ils sont très beaux d'ailleurs, très belles formes, comme ça, relevés un peu en avant et beaucoup plus relevés en arrière. Assez courts, hein. C'est des bateaux qui font 3-4 mètres.
Il y a un petit garçon tout nu là, qui est en train de remonter sur le pont et qui plonge. Et alors, ces gamins, ils sont dans cette eau, mais l'eau, elle est pas noire, quoi. Elle est plus noire que noire, elle est opaque.
Voilà. Et les mômes sont magnifiques. Ils sont 3-4 gamins là, qui sont en train de plonger dans les eaux du fleuve Buriranga, qui est un des plus grands fleuves de Dakar, qui est une ville en grande partie effectivement sur l'eau, comme tout le Bangladesh est un pays sur l'eau. Là donc, vous avez compris, on est au bord de on est arrivé, on a réussi, on a survécu et on a traversé cette ville, on est arrivé sur les bords du fleuve, on a croisé ces quatre manifs qui quand même traduisent une vitalité sociale dans cette ville et dans ce pays, mais spécialement dans cette ville de Dakar, où on l'a vu dans les reportages précédents, les gens se laissent pas faire, s'organisent en association, en ONG, en syndicat, c'est plus difficile, mais ils se laissent pas marcher dessus, ils se laissent pas faire, ils se battent, ils ont vraiment l'énergie, c'est une énergie absolument folle qui traverse cette ville. Et là, on va faire un tour sur le fleuve. Et alors, ça suppose évidemment de négocier avec les bateliers, avec ceux qui, effectivement, comme des gondoliers à Venise, nous attendent avec leur barque. Nous attendent, nous, non, pas vraiment. Enfin, il faut la traverser, quoi, du fleuve, pour qui veut bien. Et là, exceptionnellement, d'une façon extraordinaire, il y a deux blancs, qui c'est Guive et moi, avec notre ami Ondaï, qui est notre ami traducteur et formidable connaisseur de notre pays, de la France.
Alors on monte sur la petite barcasse, tout en bois. Alors, comme tous les sampans sont imbriqués et intriqués les uns dans les autres, il faut en bouger 4 pour pouvoir sortir. Accident. Voilà, c'est pas parti. Le gars, celui-là, il est à ras bord, mais vraiment à ras bord. C'est-à-dire que le fil de l'eau est vraiment juste en dessous, il est rempli de briques. À tel point qu'il y a presque plus de place que sur la proue pour avoir quelques gars. Je comprends pas pourquoi il coule pas, quoi. Là, la moindre mec qui bouge, le bateau chavire.
Gros trafic de... Ça, c'est des ferries qui descendent le fleuve ou qui montent le fleuve. Et là, il y a tout un trafic de péniches et de remorqueurs qui transportent toutes sortes de camelotes. Et puis sinon, il y a les petits bateaux indépendants, comme ça, comme le nôtre, qui transportent des gens, des petits bateaux taxis.
C'est comme dans la rue avec les pousse-pousse, les rickshaws, les autobus et les camions.
Ouais, c'est un autre genre d'embouteillage, c'est un autre genre d'odeur, c'est un autre genre d'ambiance. Les eaux sont résolument glauques, grises. C'est les eaux du Gange quand même. Ah, et du Brahmapoutre. Il n'y a pas que le Gange, il y a aussi le Brahmapoutre. Mais le Gange, je le connais pour être allé à Bénarès. Quand je pense que... Ensuite, il traverse Calcutta quand même avant d'arriver ici. C'est-à-dire que toutes les ordures du monde arrivent ici. Et nous, on est tranquillement là, naviguant avec notre... accompagnateur improvisé là qui avec son parapluie noir qui nous tient à l'abri du soleil. Il faut faire attention aux blancs, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Ici on a vraiment le sentiment d'être en voie de disparition, d'une fragilité, on dirait des petits bibelots hein. Extrêmement fragiles. Thank you.
c'est le chantier de réparation. Dakar, c'est un port. Le Bangladesh, c'est de l'eau, et Dakar, c'est un port. Sur ce grand fleuve. Et là, cette symphonie pour marteau, c'est le chantier de réparation. De construction, de réparation, de restauration, en tous les cas, des bateaux. Et là, il y a une dizaine, une quinzaine de bateaux. Certains sont en cale sèche et sont en cours de réparation. Il y a un chalumeau et tout le reste se fait à coup de marteau. Alors là, ça va nous réparer aussi, ça va nous réconcilier parce qu'on n'a vu que des chantiers de démolition de navires. Bah, au moins, là, on les construit. Voilà, port de Dakar, ces énormes navires en réparation, en restauration. Ça nous rappelle que le Bangladesh, comme l'Inde, comme énormément de ces pays en voie de développement, comme on dit, eh bien, recycle, retape, réutilise de façon permanente. De l'autre côté du fleuve, c'est l'accès de tout ce qui est... C'est un marché où tous les végétaux, les légumes, les fruits, les fleurs arrivent sur ce fleuve très glauque, mais qui est un des grands moyens de vie et de survie des habitants de Dakar. Ah ouais, le bateau des citrouilles, comme dans les histoires. Il fonce celui-là, hein, c'est un bateau de passagers, mais ça fonce drôlement, hein. Ça avance méchamment, hein.
Ça tangue un peu, là, hein.
Attends, je comprends pas ce qu'on voit.
C'est un sous-marin ou un bateau?
Voilà, c'est entre le sous-marin et le bateau, c'est complètement coulé ce truc. Et qu'est-ce qu'il transporte?
Du sable ou du gravier. On ne sait absolument plus, tellement il y a de l'eau qui passe par-dessus bord. Et là, bien sûr, il nous fait une grosse vague. Alors nous, comme sur une petite coquille de noix, ça tangue. Hop. T'as vu dans le ciel, il y a des dizaines et dizaines de corbeaux qui planent.
Ah, qui attendent. Il y a un gars qui est en train de prendre son bain. Il y a tout un tas de gens qui sont en train de se baigner. Mais il est en train de prendre son bain avec une volupté, avec un plaisir. Il se détend. Il est bien. Et alors, il se rince la bouche. Il avale l'eau. Il la recrache. Et puis, il nage un petit peu. Il fait quelques mouvements. C'est un peu le Bénarès du pauvre, ici. Je commençais à trouver que le fleuve, c'était beaucoup plus cool, comme son nom l'indique. Mais là, on s'approche des ferries. Là, il y en a un qui vient vers nous quand même, plutôt, qui a plutôt tendance à venir vers nous. Voilà, on va bouger. Il y en a un derrière qui, avec son haut-parleur, dit quelque chose.
Non, ils vont à la réunion du parti politique du gouvernement, de Barichal.
Alors c'est une manif.
Ouais.
On est venu sur le fleuve pour fuir les manifs dans les embouteillages, mais non, il y a un énorme navire quand même derrière, hein, le ferry, t'as vu qu'il nous suit.
Montrer la puissance d'actuel gouvernement. C'est la manifestation simplement pour montrer la puissance de l'actuel gouvernement.
On fait un grand usage du haut-parleur ici, du porte-voix. Par exemple, les bus, le matin, eh ben, il y a des haut-parleurs sur le bus. Et on passe de la musique, une espèce de bouffée de musique ambulante, comme ça. Ou bien, au cours des longs voyages et des longs blocages dans les embouteillages, dans les autocars, par exemple, eh ben, il y a un gars qui prend le micro et qui chante une petite chanson, une petite prière, ou qui raconte une petite histoire à l'usage de ceux qui sont dans le car, mais aussi bien à l'usage des passants et des embouteillés alentour. Voilà, voyage à travers, balade à travers Dakar. Merci à tous, merci à Uday Shankar, merci à Anouk Baroua, Tipu Sultan du journal Protomalo, merci à Myriam Bassino. C'était un reportage avec Guy Vanctil, à voir demain à 20h30, cabaret Légitime Colère, un spectacle de la compagnie Jolimôme en soutien aux étudiants au théâtre municipal
de Villeneuve-Saint-Georges, dans le 94. La réservation, c'est au 01 43 86 41 78 au cours de cette balade à travers Dakar. On a croisé des manifs. On va essayer de savoir ce qui se passe dans les manifs, dans la manif à Paris. On va appeler notre ami Francesco. Francesco, allô, Francesco Giorgini. Comment ça se passe? Comment ça se passe, la manif à Paris?
Ça se passe que ça charge de tous les côtés sur les flancs des Invalides. Il y a à peu près trois compagnies de CRS qui sont placées au milieu de les flancs des Invalides et qui jouent à charger, à contre-charger avec les manifestants. Les manifestants se partagent entre militants d'extrême-gauche, surtout CNT, LCR, et puis gens de banlieue qui sont venus en nombre et qui sont particulièrement chauds pour se chauffer avec... les forces de l'ordre. Alors bon, la manif s'est passée plutôt gentiment. Il y avait un joli autocollant sur des milliers et des milliers d'étudiants qui étaient rêve général, un petit jeu de mots avec grève générale, et qui laissait, comment dire, un espèce de goût de contestation de notre temps. Et puis finalement, sur la plainte des Invalides, évidemment, ça finit comme c'était prévu. Je rappelle, pour qui ne se souvient pas, que déjà, les mouvements contre le CIP, attention... Excusez-moi, les mouvements contre le CIP étaient déjà joués beaucoup en train des Invalides. Et là, il y a un groupe de la BAC qui est rentré dans les manifestants et qui vient de se faire allumer. Et il y a un charge de céréales sur le côté. Ne courez pas! Excusez-moi. Voilà, ça c'est ce que je peux vous raconter. C'est un jeu qu'on connaît bien et c'est un jeu qui, espérons, ne fasse pas trop de dégâts, surtout parmi les gens. Ça n'a fait quelques-uns parmi les objets, chose qui n'est jamais en soi particulièrement grave. Il y a eu au moins deux voitures brûlées que j'ai vues, probablement plus. Et ça dure depuis à peu près une demi-heure et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter.
Ok, Francesco, ben merci.
Mais la manif était très très participée, il y avait des dizaines de milliers d'étudiants.
Ouais. Ok, Francesco, merci. Fais attention à toi.
Ah, une dernière chose. Il y avait des étudiants de Chambéry, pardon, que je respire là, du gaz lacrymogène. Il y avait des étudiants venus de Chambéry et il y avait un joli pancart. Le Reblochon est contre le CIP. le CPE, excusez-moi. Et sur cette bonne note, je vous laisse.
Salut, à bientôt, Francesco.
Bon travail.
Merci. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Adrien Joannet. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Montée par Coy Nguyen et Guy Ventil. Assistée de Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission, je vous le rappelle, daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.